Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Bonjour Gilles Gansman.
Bonjour Valérie.
Nous sommes le vendredi 19 février. Il n'y a pas grand monde dans les rues, hein, les gens. En tout cas, à Paris, je vous fais une info aux routes. On va avoir un invité exceptionnel aujourd'hui, le réalisateur du documentaire qui sera diffusé dimanche soir sur M6. M6 qui bouscule ses programmes. Vous avez certainement entendu cette information. Une femme que M6 a suivi pendant plusieurs années, a reçu une greffe d'utérus et elle a mis au monde une petite fille il y a quelques jours. Donc on va en parler avec le réalisateur Ibar Aibar et le professeur Jean-Marc Ayoubi qui a suivi cette grossesse. Ce sera dans un instant.
Ouais, c'est exceptionnel.
Ouais,
le documentaire,
parce qu'il n'y a pas que cela dans le documentaire, on en parlera avec le réalisateur. Et puis on va également à 10h30 retrouver Gérard Collard pour les livres. Gilles, la question du jour.
Eh ben, la question du jour, c'est un joli coup pour Zone Interdite qui réagit à l'actualité, mais c'est souvent le cas. Souvent, les magazines d'M6 réagissent. Et on se demandait d'ailleurs, quel est votre magazine préféré d'M6 ? Est-ce que c'est Zone Interdite, Enquête Exclusive, 66 minutes ou Capital, puisque ce sont à chaque fois des magazines qui font énormément d'audience. Eh ben, pour l'instant, c'est quoi votre chouchou aux auditeurs de Sud Radio sur le compte Twitter ? C'est 34%. Et pour l'instant, je suis un peu surpris parce qu'Enquête Exclusive arrive en deuxième avec 31%. Je pensais que Capital arriverait
en
premier.
Oui, moi aussi. Bon, bah écoutez, le vote ne fait que démarrer.
Juste démarrer. Allez nous dire votre opinion sur le compte Twitter.
Et le zapping tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
Valérie, c'était l'événement planétaire hier avec la sonde Perseverance qui arrivait sur Mars. Bon, on n'a pas vu grand-chose.
C'était
un grand moment. Il y avait un peu de France à 235 millions de kilomètres de la Terre. Life on Mars, comme dirait David Bowie, ils étaient très contents à la NASA. Alors Valérie, on va sur Mars, mais on est même incapable d'assurer un journal de 13 heures. Ainsi va l'ironie de la vie. Hier, Marie-Sophie Lacaro est apparue bien désemparée, un court moment à 13 heures, pour annoncer qu'elle ne ferait pas le journal.
Bonjour et bienvenue dans ce 13h, mais nous n'allons pas passer beaucoup de temps ensemble. Aujourd'hui, c'est totalement inédit. Nous n'allons pas pouvoir vous proposer votre journal de 13h. Nous ne sommes pas en mesure de diffuser un seul reportage. Nous avons ici un énorme problème technique. Alors croyez-le bien, nous en sommes évidemment désolés. Nous vous prions de nous en excuser. Nous allons devoir en rester là. Je le redis, c'est absolument inédit.
Bon, elle est revenue un petit quart d'heure plus tard. C'était le logiciel qui a les reportages en stock. Bah, qui ne fonctionnait pas. Hein. Votre ordinateur ne s'allume pas, vous n'avez pas accès à vos mails, vous n'avez pas accès au contenu, c'est ce qui leur est arrivé. Et de son côté, évidemment, Julien Buget, qui présentait le Trésor de France 2, l'a appris et a fini son journal. Alors, ce n'est pas très confraternel, mais il a réagi à chaud.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bienvenue à nos nouveaux téléspectateurs, nombreux paraît-il aujourd'hui. Tout de suite, le journal météo Chloé Nabédian qui nous annonce du soleil et beaucoup de douceur.
C'était ironique, il s'est excusé après.
Oui,
parce que vous connaissez
ça a été
les gens
très
sur Twitter.
Très mal pris.
Un déchaînement. Ouais. Qu'est-ce qu'on disait, Valérie, du coronavirus il y a un an, le 18 février 2020 ? Eh bien, Quotidien a ressorti les archives avec Jérôme Salomon, Olivier Véran. Ouais. C'était il y a tout juste un an, jour pour jour.
Allons au mardi 18 février 2020. Et ces quelques heures, ces quelques jours qui arrivent là, à partir du 18 février 2020,
à ce jour, il n'y a pas de nouveaux cas en France, donc pas d'épidémie, pas de groupe de cas groupés, pas de chaîne de transmission. Le bilan est donc le suivant, 12 cas confirmés.
Le 18 février 2020, le tout nouveau ministre de la Santé fait sa première matinale.
D'abord, je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. La Chine a pris ses responsabilités en mettant en place des mesures de confinement, d'isolement, très rapidement. Je ne suis pas sûr que ce serait possible de réaliser tout cela dans un pays dans lequel les réseaux sociaux seraient ouverts.
Le fameux « les confinements, c'est pour les dictatures ».
Bah oui, jamais on confinera en France, Valérie, jamais de la vie.
Et la France est prête.
Mais la France est prête, mais c'était il y a un an.
Bon, alors c'est vrai qu'on a découvert aussi ce virus à la décharge des autorités de santé.
Qu'est-ce que vous feriez, Valérie, avec 202 millions ?
Oh, beaucoup de choses.
Ben alors moi, je vais jouer le 8 oui. et je joue toujours le 14 aussi, voilà. Oui. Parce que ce soir, c'est le grand jackpot du loto. Vous jouez au loto ? Tiens,
je vous ai... Ben non, à chaque fois, je me dis que je vais jouer. C'est l'euro million, hein. C'est pas le loto, me dit notre réalisateur.
Ben, merci, merci Romain.
On voit que vous ne jouez pas, alors.
Non, mais je vais jouer ce soir, ouais. 202 millions. Je ne suis pas sûr d'être là lundi, méfiez-vous. Ouais. On se prend à rêver comme, bah, comme tout le monde. C'est un micro-trottoir de BFM.
C'est une somme qui fait rêver, 202 millions d'euros. Ce montant est en effet un record historique pour la Française des Jeux. Alors forcément, ils sont nombreux à tenter de décrocher le jackpot ce vendredi.
C'est 202 millions, c'est pour tous les jours que ça tombe. On croise les doigts, puis... espérant que ça marche.
Je passe à côté, donc je me dis, ben pourquoi pas, quoi. C'est le dicton qui dit tous les gagnants ont tenté leur chance, quoi.
Et voilà.
Voilà, c'est tout.
Bon, le loto le week-end, la naissance de Micha dont on va parler, et puis évidemment, bientôt, on est en vacances bientôt pour l'autre zone. Bref, il y a de la joie. Vous savez qu'aujourd'hui, on célèbre les 20 ans de la mort du chanteur Charles Trenet.
Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le doigt, il y a de la joie, il y a du soleil dans les ruelles, il y a de la joie partout, il y a de la joie.
Voilà l'occasion de rappeler que Jacques Pessis de Sud Radio a sorti un livre sublime sur Charles Trenet.
Et Charles Trenet.
C'est Charles Trenet. Ben, voilà, dès que je parle de Jacques, je bafouille.
Voilà.
Et il sera l'invité de Céline Alonso à 13h sur Sud Radio pour
très bien,
de ce
pour
livre.
Parler des révélations hein, sur sur
la... Ah oui, il dit qu'il n'a jamais été pédophile, entre autres. Il parle de l'héritage, il parle de beaucoup
absolument.
De choses.
Absolument, c'est à suivre tout à l'heure. Voilà, on se retrouve dans un tout petit instant pour parler de ce document exceptionnel qui sera diffusé dans Zone Interdite, cette greffe d'utérus, une première mondiale réalisée en France, mais deux autres prouesses médicales également à découvrir dans ce document. C'est à suivre dans un instant.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Avec vous sur Sud Radio et un document exceptionnel. Vraiment, le mot n'est pas trop fort. Parfois, on emploie des mots comme ça parce qu'on ne trouve pas d'autres qualificatifs. Mais un document exceptionnel dans Zone Interdite dimanche soir. On est avec le réalisateur de ce documentaire, Ibar à Ibar. Bonjour. Vous êtes grand reporter, réalisateur. Vous avez suivi pendant 3 ans. L'équipe de Nova Productions a suivi pendant 3 ans 3 personnes qui étaient chacune atteintes d'un handicap a priori impossible à guérir ou en tout cas à soigner. Priscilla qui a perdu ses 2 pieds et ses 2 mains suite à une erreur médicale. Thibaut, tétraplégique, donc par définition qui ne pouvait pas marcher. Et Déborah, dont vous avez entendu parler depuis quelques jours, qui est née sans utérus mais avec des ovaires. Et c'est cette greffe d'utérus qui a donner la possibilité à Déborah d'avoir un bébé. Donc je vous propose qu'on écoute la bande-annonce qui donne une petite idée de ce qu'on va y retrouver.
Émission spéciale dimanche dans Zone Interdite. Pour la première fois, nous allons suivre des Français dont la vie a été transformée par des exploits de la médecine.
C'est mon seul espoir pour retrouver la personne que j'étais.
Se faire greffer 2 mains, remarcher alors qu'on est tétraplégique. Retrouver l'espoir de grossesse quand on est né sans utérus.
C'est le plus beau cadeau qu'elle m'a fait après m'avoir donné la vie.
Vous allez vivre 3 aventures exceptionnelles et bouleversantes. Quand les médecins redonnent l'espoir, dans les coulisses d'Opération Miracle, c'est dimanche à 21h05 dans Zone Interdite sur M6.
Alors Ibar, vous êtes le réalisateur de ce documentaire, 3 ans de tournage. Quand vous vous lancez, alors on est en ligne également avec le professeur Jean-Marc Ayoubi, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. On va vous interroger dans un petit instant, mais je voulais voir avec Jean-Marc, avec Ibar, la genèse de ce documentaire. 3 ans, vous vous lancez sans savoir quelle sera l'issue du documentaire.
Oui, alors gentiment, donc ces 3 professeurs de médecine nous ont ouvert les portes de leur service, ils nous ont permis donc de filmer. La seule inconnue qu'on avait, c'est que c'était le temps de la médecine, donc c'était un temps long. Et on est parti, on a parié que ça pouvait le faire, mais on ne savait pas si ça allait nous prendre 1 an, 2 ans. Ben là, ça a pris 3 ans. Plus Priscilla, la jeune femme qui a été greffée, elle a attendu presque 8 ans de trouver une donneuse pour pouvoir être greffée. Donc, vous voyez le temps long.
Donc, vous vous lancez dans ce documentaire en ayant quand même des certitudes, enfin des certitudes, là, il n'y en a jamais en médecine, mais en vous disant quand même que ces trois opérations ont des chances d'aboutir.
Alors, c'est quand même un peu des génies de la médecine, hein, les gens, les trois professeurs qu'on a suivis. Ouais. Donc,
professeur Lantieri.
Oui, quand ils se lancent dans une opération, en fait, ils font pas chou blanc, ils réussissent. Donc, on avait cette certitude-là, mais on n'avait pas de certitude sur la durée. C'était ça qui était compliqué. Mais que ça marchait, moi, ça, j'y croyais depuis le début que ça allait marcher.
Oui, professeur Ayoubi, vous aussi, vous étiez sûr que ça allait fonctionner ?
Bah, écoutez, on n'est jamais sûr de rien, on est sûr de faire. Oui. On n'a pas la même vision de choses, parce que là, nous, on a monté ce protocole de recherche sur lequel on a travaillé pendant 15 ans. Ouais. On était dans l'espoir d'y arriver. On était aidés par des réussites internationales avec des équipes avec lesquelles on avait travaillé. Mais nous, de toute façon, la recherche aura des avancées sur des thématiques qui sont autour de la greffe. Même si la greffe n'aboutit pas, il y avait des choses qui étaient autour, qui étaient très bénéfiques pour dans le domaine de la reproduction. Donc, on fait de la recherche, on essaye, on a l'espoir d'arriver pour donner de l'espoir et pas simplement de l'espoir, des résultats à des dizaines de patientes qui attendent, qui sont dans l'infertilité, dans la souffrance de l'infertilité et qui ont été dans l'espoir de concevoir. Donc, même si on n'est jamais sûr, on avait un grand espoir d'y arriver. Et puis, de toute façon, c'est une aventure qui était motivante pour l'ensemble de l'équipe, une vingtaine de chercheurs autour, et qui ont travaillé sur beaucoup de thématiques et qui ont réalisé des avancées dans beaucoup de domaines. Il n'y a pas que cette prouesse chirurgicale dont on parle aujourd'hui, parce qu'on voit que cette partie visible de l'iceberg, c'est la naissance, c'est émotionnel, c'est magique, toute naissance est magique. Celle-là, elle l'est encore plus. Alors, au départ, moi, je ne voulais pas. J'ai eu beaucoup de sollicitations quand on a commencé à parler de la greffe pour filmer, pour suivre. Et je ne répondais pas parce que je trouvais que je voyais pas où était la place d'un documentaire, un suivi médiatique de cette affaire-là. Donc, je disais non.
Et pourquoi avoir dit oui cette fois-ci, alors?
Eh ben, alors, j'ai dit oui. J'avais l'équipe m'avait écrit à plusieurs reprises, soit je répondais pas, soit je disais non parce que je voyais pas la possibilité de les laisser filmer. Et puis après, ils sont passés par une personne d'hôpital qui était dans le service de communication, me dit, mais écoutez, pourquoi vous leur dites non, recevez-le et voyez ce qu'ils veulent faire. Mm-hmm. Quand je les ai reçus, je dis, ouais, pourquoi pas, on n'a rien à cacher, mais à condition que ce soit vraiment dans le respect de l'intimité du couple, de respect de l'intimité de la donneuse, de la receveuse, et pas de harcèlement. Quand on vous dit stop, c'est stop. Ouais, c'est-à-dire que quand la patiente vous dit stop, c'est stop. Ils étaient très, compréhensibles. Ils disent, bon, écoutez, on ne fera jamais rien si vous n'êtes pas d'accord. Après, en fait, ils étaient tellement discrets, tellement sympathiques, que les choses se sont passées naturellement. Ils ont eu un lien avec le couple. Et puis je tenais à ne pas être présent quand ils enregistraient, parce que je voulais pas que la patiente ou la mère soit influencée par ma présence. Donc, j'ai laissé faire. Ouais. Et puis, ils ont fait. J'ai pas encore vu le documentaire.
Ah oui, c'est ça, c'était ma question. Ouais.
Mais a posteriori, je dis, oh, c'était pas plus mal d'avoir une trace de ce qu'on a fait, parce qu'en fait, quand on va dans cette aventure, on compte pas le temps. C'est 15 ans, c'est long. Hein. Et là, on dit, mais oh là là, c'est toutes ces étapes. Ouais. Et c'est bien d'avoir une rétrospective de tout ce qu'on a fait. Bon, on a une rétrospective de la dernière phase, c'est-à-dire les trois dernières années. Ouais. Mais c'est intéressant aussi.
Oui, il faut savoir qu'en amont, il y a eu ce que vous disiez, énormément d'années de recherche. Gilles, vous avez une question.
Alors, je vous conseille de le regarder parce que le documentaire est très bien, professeur Ayoubi. Et alors, surtout, on rend hommage à parce que c'est 15-20 personnes qu'on voit dans le bloc opératoire. Les infirmières sont juste incroyables. Et alors, moi, il y a quelque chose qui m'a surpris dans le documentaire, parce qu'on a eu la chance de le voir avant. et que nos auditeurs vont voir dimanche. Un moment, puisque c'est une opération en long cours qui fait plus de 8h, 9h, eh bien, on vient dans la salle de repos pour manger. Et dans la salle de repos, il y a un énorme écran où l'opération continue à se faire et vous mangez devant l'opération et choses. Et moi, ça m'a surprise de la vie continue pendant que l'opération se déroule. Vous avez été manger un sandwich.
Bah, écoutez, il faut prendre de force. Ouais. Il faut être. C'était pas simplement pour manger, mais pour se poser, pour se reposer, pour reprendre de force. Et puis remplacer l'équipe, parce que c'était en fait, il y avait trois équipes qui travaillaient en même temps. Ouais. Vous avez parlé des personnes qui étaient au bloc opératoire, mais il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur le projet qui n'étaient pas dans le bloc opératoire. Les biologistes du laboratoire des fécondations in vitro n'étaient pas dans le bloc opératoire. Les chercheurs qui nous ont aidés à travailler sur l'animal pour préparer ce projet n'était pas dans le bloc opératoire. Les spécialistes de rejet de greffe, néphrologues, immunologistes, n'étaient pas dans le bloc opératoire.
C'est ça, c'est ce que vous dites, c'est la partie visible de toute cette enquête. Comment c'est pour justement pour vous le réalisateur d'avoir suivi encore une fois, il y a trois personnes que vous suivez. Comment c'est particulier? Ça a été particulier ce tournage?
Oui, c'était particulier. Bon, comme je vous disais, ça a bien commencé parce qu'on nous a laissé faire, donc ça c'était quand même indispensable. Évidemment, on n'a pas pu tout mettre, mais c'est vrai qu'on a vu les équipes nous travailler, se préparer, s'entraîner, répéter, faire des répétitions, comme on répète une première de théâtre, pour calibrer chaque petit mouvement, chaque petit geste, chaque petit placement du matériel. Enfin, c'est vraiment...
Oui, on voit une opération aux États-Unis, ils ont une checklist, et chacun est obligé de respecter la checklist qu'ils ont prévue à l'avance.
Oui, alors c'est vrai, le professeur, par exemple, là, le professeur Yubi, il me disait, c'est notre travail. Ouais. Et moi, je disais, mais vous êtes en train de faire décoller Ariane, on dirait. Un truc de dingue, vous êtes je sais pas combien, il y a des spécialistes de toutes les catégories ici qui interviennent, qui sont tous hyper pointus dans leur domaine et eux ils trouvaient ça normal, c'était leur quotidien en fait.
Ça a été difficile de convaincre les trois personnes que vous avez suivies de se laisser filmer, c'est toujours la difficulté
alors,
pour un réalisateur.
Voilà, alors la chose c'est que en fait on les a pas choisis, c'était les patients qui étaient en train d'être suivis par les professeurs qu'on a suivis donc. Et donc, on ne les a pas suivis, on n'a pas fait de casting. Oui. Et la seule chose qu'on a dit, oui, par contre, nous, on ne va rien demander, on ne va rien faire jouer. Tout ce que vous avez vu dans le doc, c'est du live.
C'est du spontané, oui.
Et par exemple, le professeur, il fait la première échographie, il se déplace parce que c'est important, il fait la première échographie. Il n'y a pas assez de lumière dans la pièce, la qualité d'image n'est pas assez bonne. On ne l'utilise pas, mais on n'a pas demandé d'allumer la lumière. On a respecté tout le processus de leur travail en étant le plus discret possible. Bon, moi, je travaille seul, donc je ne prends pas beaucoup de place. Pas pendant la greffe, il y avait trois équipes, évidemment, c'est important. Mais souvent, avec les gens, je travaille seul, donc je ne prends pas beaucoup de place. Et voilà, je vous dis, on était dans le naturel. C'est vraiment du reportage. Mmh. C'est vraiment du reportage.
Comment va Micha, professeur?
Elle va très bien.
Oui.
Elle va très bien. Demandez à Ivar, il suit ça aussi.
Peut-être le parrain. Pourquoi on n'avait pas réussi à greffer d'utérus jusqu'à maintenant? Parce qu'on greffe énormément d'organes, mais l'utérus, jamais. Pourquoi? Parce que ça n'intéressait personne ou parce que c'est difficile?
On a réussi à greffer d'utérus. C'est pas la première greffe d'utérus. Il y a eu plusieurs greffes d'utérus depuis 2014.
La première
fois
en France.
En 2000, il y a eu une tentative. Alors pourquoi on n'a pas greffé de façon, je dirais, assez régulière et assez routinière? Tout simplement parce que l'utérus est un organe difficile en matière de vascularisation, en matière de vaisseaux. C'est des vaisseaux qui sont de petit calibre, difficiles à suturer. Et pratiquement tout l'utérus est vascularisé par une artère qui est l'artère utérine et une veine qui est la veine utérine pour le retour veineux. Mais l'emplacement anatomique de l'utérus, c'est un emplacement difficile, c'est dans le pelvis, c'est profond. Donc faire de la chirurgie dans cette zone-là n'est pas aisé et on ne peut pas placer l'utérus ailleurs. Parce qu'il faut le placer de la partie génitale, c'est sa place. Ce que je disais, c'est qu'on n'était pas en train de contrer la nature, on était en train de... On a compris comment ça s'est passé, il manquait l'utérus. Tout ce qui est génitale, par ailleurs, était normale. La fonction ovarienne était normale. La fonction
hypothalamique était normale. Oui, elle avait des ovaires. Elle était naissance utérus, mais avec des ovaires.
Elle avait ses ovaires. Donc, nous, il y avait quelque chose qui manquait. Bon, on avait fait ce choix de faire la greffe d'utérine. Et puis, la deuxième raison pourquoi la greffe ne s'est pas faite, la greffe utérine n'est pas... L'utérus n'est pas un organe noble. Enfin, peut-être un organe noble, mais ce n'est pas un organe vital.
D'accord.
On peut vivre sans utérus, mais on ne peut pas vivre sans cœur, ni sans rein, ni encore avec la dialyse, ou sans poumon. Ouais. L'utérus n'est pas un organe vital, il transmet la vie. Donc c'est une question, je dirais, qu'on s'était posée sur le plan éthique et sur le plan psychologique. Pour toutes ces raisons... La greffe d'utérus a pris du retard avec surtout la complexité opératoire. Et beaucoup de recherches aujourd'hui sont focalisées sur l'amélioration et la simplification de la technique opératoire et de la technique chirurgicale. Car ça reste malgré tout une technique assez complexe. Ouais. Il ne faut pas que cette technique chirurgicale reste l'apanage de certaines équipes entraînées dans le monde. Il faut qu'elle soit assez, je dirais, reproductible.
Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Vous avez une autre opération prévue ou pas?
Elle n'est pas prévue pour l'instant. On a été retardé par la crise Covid dans la programmation des explorations. Vous savez, c'est une procédure qui est assez longue. Il y a des critères de sélection pour diminuer le risque de toute intervention. Donc, c'est vraiment très rigoureux dans la sélection des patients. On passe plusieurs examens, plusieurs consultations devant des comités indépendants. Donc toute cette procédure a été retardée par le Covid. Il y a actuellement 3 ou 4 couples qui sont
en attente
dans ce parcours. Et certainement, il y aura une autre greffe, mais elle n'est pas programmée dans les mois à venir.
Très bien, merci professeur d'avoir été avec nous, professeur Jean-Marc Ayoubi, donc de l'hôpital Foch à Suresnes. Ibar, vous avez suivi, parce qu'on parle beaucoup de cette greffe, parce qu'il y a eu, et le professeur le rappelait, la naissance de cet enfant. Il y a l'histoire exceptionnelle aussi de cette femme qui a été amputée des deux mains et des deux pieds, et son histoire, le hasard, la vie fait que la greffe a pu avoir lieu. Le greffon, enfin, je vous laissais raconter, mais nos auditeurs le découvriront dans le documentaire. Mais là aussi, c'est une histoire exceptionnelle.
Ah, c'est une histoire exceptionnelle. Et en fait, elle est aussi. On a suivi aussi une femme exceptionnelle, son mari également. Des gens très forts, très résilients, qui sont battus contre tout. Parce qu'en fait, elle est victime d'une erreur médicale grave. Et donc, pour essayer de lui sauver la vie, elle se fait amputer des mains et des jambes. Et donc, elle se retrouve mère de 3 enfants avec un handicap. Elle ne pouvait même pas, quand son bébé de 4 mois pleurait, elle ne pouvait même pas se lever pour aller lui mettre une tétine ou s'occuper de lui. Donc, elle a passé 8 années comme ça à se battre. Et finalement, grâce au professeur Lantieri qui l'a accompagnée pendant ces 8 ans, elle est partie de se faire greffer à Philadelphie.
Oui, alors qu'elle arrivait à New York en vacances, en voyage, qu'elle attendait cette greffe depuis des années.
Alors justement, pour la petite histoire du doc, moi, je la contacte, on se voit une première fois, puis une deuxième fois, elle me dit « Ah, je ne suis pas trop télé, moi, je n'ai pas envie de parler de moi. » J'ai dit « Écoute, quand même, c'est une histoire incroyable. » Donc, elle finit par me donner son accord, et donc je passe dans le sud de la France où elle habite, et on fait la première séquence. Et elle me dit « Vous savez, je n'étais pas bien. On va la refaire quand je reviendrai de vacances, je serai plus reposé, on sera mieux, je pourrai m'exprimer mieux que ça. » Et donc elle me dit « Refaisons-la plus tard. » Et je dis « Non, on la fait maintenant parce qu'on ne sait jamais. » Et elle me dit « Non, ça fait 8 ans que j'attends une greffe, c'est pas en 15 jours de vacances. » Et en fait, elle atterrit à New York avec ses enfants, et quand elle rallume son téléphone, on l'appelle, et ils ont trouvé la donneuse parfaite.
Incroyable, ouais. Et puis le troisième jeune homme, Thibaut, 28 ans, tétraplégique, qui réussit, donc tétraplégique, ça veut dire qu'on est paralysé, et qui, grâce à une innovation française, exosquelette, c'est assez, il réussit à se déplacer
Ça, c'est une première
par
mondiale.
La force de la pensée.
Alors ça, c'est une première mondiale, un Clinatec, donc, qui est un groupe, et crée en fait des chips qu'on lui met dans le cerveau, qu'on lui implante, et c'est très bien expliqué dans le documentaire. Et grâce à la pensée, en fait, il arrive d'abord à bouger un avatar sur un jeu vidéo. Il arrive à faire circuler son fauteuil roulant, et à la fin, il monte sur un exosquelette et il marche, et il avance, il déplace les bras, il prend des objets. C'est juste avec la force de la pensée. C'est... Là, on est dans le futur. Là, vraiment, ouais. on est dans
ouais,
le futur.
Quand on voit le siège dans le couloir de l'hôpital, hein, Valérie, l'image de ce siège qu'il arrive à faire bouger tout seul, c'est un peu un Avengers. Hein,
c'est un truc de fou. Mentalo, en fait. Ouais,
vous avez réalisé énormément de reportages. On disait, vous êtes grand reporter. Ça fait partie des reportages, des documents dont vous êtes le plus fier.
Oui, parce que là, on est, comme en grand reportage, on est dans des histoires humaines très, très fortes. Et là, ce qui était vraiment agréable quand on est journaliste, c'est de pouvoir être sur une histoire pendant 3 ans. C'est quand même magnifique de pouvoir suivre les gens pendant 3 ans.
Mais écoutez, merci d'être venu ce matin sur Sud Radio. Merci au professeur Ayoubi. Ne manquez pas donc ce document de zone interdite. Donc c'est une programmation exceptionnelle. M6 a adapté évidemment en raison de la naissance de la petite Micha. Quand les médecins redonnent l'espoir dans les coulisses d'opération Miracle. Vous avez même remonté l'émission, le documentaire hier. À la naissance, c'est vraiment très très fort et vraiment quand on crache sur la science, on voit qu'il y a des choses magnifiques qui se font. Merci à vous Ibar Aïbar d'être venu ce matin sur Sud Radio.
Merci à vous, c'est un film qui donne de l'espoir.
Absolument.
C'est très sympa à voir.
Oui, c'est vraiment quand on rentre dans le documentaire, on est happé par ces histoires, par ces gens, parce qu'on n'a pas dit, on n'a pas mentionné, on aurait eu plein de questions encore à poser, que c'est la maman de Déborah qui donne son utérus à sa fille. Donc voilà. Mais c'est à découvrir, on ne va pas trop en dire, mais à découvrir dimanche soir sur M6, document exceptionnel dans Zone Interdite. Dans un instant, les livres avec Gérard Collard.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Et c'est avec un immense plaisir que tous les vendredis, nous retrouvons notre libraire préféré, Gérard Collard. Bonjour, libraire à Saint-Maur, La Griffe Noire, ravi de vous retrouver avec une nouvelle sélection de livres. Alors, on commence par quoi ?
Alors, c'est vrai que c'est un peu triste en ce moment, les gens, les informations et tout. Donc, je vous ai sauvé une sorte de médicament, c'est-à-dire un anti-stress, qui fait sourire les neurones, qui vous repeint le cerveau en rose. Ça s'appelle « Mon frère ce zéro » de Colin Thibert, c'est chez Héloïse d'Ormesson. Je me suis fait avoir par ce bouquin. C'est l'histoire de les tontons flingueurs, mais version loser, 21e siècle, vous voyez. Donc, il y en a un qui s'appelle Canard. Il y a un espèce de type qui a 50 ans, qui a des dreadlocks. Il s'est fait virer par sa femme parce qu'il vivait à ses crochets, qu'elle n'avait plus de fric. Donc, voilà. Et puis, il y a un autre. Alors, lui, c'est le plus honnête. Et il a un truc pour gagner beaucoup, beaucoup d'argent sans faire de casse, sans rien. En fait, dans son EHPAD où il travaille, il a le sosie d'un milliardaire. Et il se dit, on va utiliser ce sosie pour aller tirer de l'argent en Suisse. Alors apparemment, tout est... Vous voyez, c'est nickel et tout.
C'est bien organisé.
Ouais, mais alors dès le début, vous sentez que ça ne va pas... Voilà. Et là-dessus, va se greffer un avocat véreux, une comtesse, enfin plein
Donc
de gens.
Donc on est un peu dans le burlesque. Enfin, pas
non,
dans
parce
le burlesque,
j'aime pas trop. Non, c'est plutôt les tontons flingueurs. C'est-à-dire, il y a du Audiard.
Voilà,
c'est Audiard, il y a les phrases claques, vous êtes dedans, vous souriez, vous dites mais qui va se faire avoir, et puis c'est tellement drôle, c'est trois neuneux là qui se font avoir et vous savez pas jusqu'à la fin qui va avoir qui. Et donc, et puis alors il y a le pauvre type là, le sosie qui est là, il est au milieu et
il
tout.
Comprend pas.
Non, c'est absolument génial. Allez-y, donc franchement, ça devait être remboursé par la Sécu.
Comment ça s'appelle?
Alors ça s'appelle Mon frère ce zéro de Colin Thibert, c'est chez Héloïse d'Ormesson. Alors merci parce que il y a tellement peu de romans qui soient drôles et qui nous changent les idées. J'ai essayé de vous en trouver un toutes les semaines
pour remonter un peu le moral.
Ouais, parce que là il y a un moment, moi je peux plus. Hein, j'en suis à regarder sur Sister les mamans, donc c'est pour vous dire. Donc j'en ai rien à foutre.
Ça va pas du tout.
Ah oui, non, ça va pas.
Alors j'ai peut-être un truc pour vous. Alors on peut pas dire que ce soit hilarant, mais c'est un livre qui vous, c'est ce que j'appelle les livres couettes. Vous savez, ces livres dans lesquels vous rentrez et vous avez l'impression d'être dans une sorte de bulle. C'est Modern Love. Vous savez, c'est cette chronique du New York Times qui a donné lieu à une série. Et là, ce sont ces histoires vraies. En fait, c'est un journaliste qui a eu l'idée de demander une contribution en gros à ceux qui avaient envie de raconter leur histoire d'amour. Alors c'est l'amour au sens large. Ça peut être la rencontre, ça peut être la rupture, ça peut être une histoire d'amour avec un enfant et on s'attache aux personnages, c'est super bien écrit, c'est des petites histoires qui
c'est
font
comme des nouvelles.
C'est des petites nouvelles qui font 3-4 pages, c'est des histoires vraies, chacun raconter son histoire. Alors il y a des, mais même quand c'est des histoires qui finissent pas forcément bien, les personnages sont touchants, c'est drôle, et puis c'est addictif quoi. C'est-à-dire que vous tournez les pages et quand on a un livre comme celui-là, on le lâche pas.
Mais je l'ai pas lu, mais la couverture
ouais.
est belle.
Elle
en
est
plus.
Belle, oui, ouais, ouais. c'est une raquette de ping-pong ouais, rouge avec une petite table, une petite balle de ping-pong sur un fond bleu. Donc c'est paru chez Phébus. L'auteur s'appelle Daniel Jones. Enfin, c'est pas vraiment l'auteur, c'est le journaliste qui a mis en place ouais. ça. Mais franchement, vous plongez dedans. Je peux vous dire que vous ne. Parce que c'est vraiment la Modern Love, c'est cet amour moderne. Donc il y a beaucoup effectivement des réseaux sociaux, ouais. de la différence d'âge, des nouveaux comportements des jeunes, mais il y a aussi un deuil. C'est super bien fait. Et puis c'est
on va aller voir.
C'est une histoire d'amour. Et franchement, vous allez. Voilà, c'est beau, c'est bien. Et le sous-titre, c'est L'amour n'a jamais été aussi vivant. Donc ça s'appelle Modern Love. Et c'est chez Phébus. Et c'est un vrai bonheur de lecture.
Alors moi, vous savez, on avait adoré ce bouquin quand il était paru en gros. Il vient de paraître en poche de Sébastien Spitzer, Le cœur battant du monde,
ouais,
en
ouais,
livre de
absolument.
Poche. C'est absolument... Alors ouais. là, vous avez un... Spitzer, c'est un des plus meilleurs écrivains français. Il est relativement modeste, hein, c'est ouais. pas le genre qu'on voit partout, voilà. L'histoire, elle est... Alors c'est l'histoire d'une jeune femme hein, qui ça commence sa vie, commence par une catastrophe. On est au temps de la révolution industrielle en Irlande. Son mari, il meurt et donc elle doit... Elle part, hein, parce qu'ils sont très pauvres en Irlande, elle va se retrouver eh bien, où à Londres, pendant cette révolution industrielle. Et puis, hein, elle est dans une gare, elle a un malaise, quelque chose. Bah, bah. Et puis, il y a un docteur qui s'appelle Engels, vous savez, comme le copain de Karl.
Ouais.
Et il lui dit, est-ce que vous ne voulez pas recueillir un jeune enfant, là, un jeune bébé, en contrepartie, où on vous donnera un peu d'argent et tout. Et elle va tomber complètement... c'est comme son enfant qu'elle n'a pas eu avec son mari. Elle va même jusqu'à se prostituer hein, pour donner de l'argent, pour gagner de l'argent, pour en plus le nourrir et tout. Et vous allez découvrir que c'est le fils caché d'un monsieur très connu qui adore les autres en général, mais pas en particulier. C'est Karl Marx. Et là, il va vous plonger dans la vie quotidienne de Karl Marx, de Engels, de cette femme.
Ouais,
toute la révolution industrielle, les pauvres, les femmes, comment elles sont exploitées, c'est une saga. Hein. Vous êtes dedans, vous ne lâchez plus du tout. Et puis ce gamin va grandir, vous allez voir ce qui va devenir. C'est bon, je ne sais pas, parce qu'on dit non. que je résume.
Mais voilà. c'est une plongée dans le quotidien de Karl Marx. Et c'est pas du tout. C'est pas politique.
Pas du tout.
Ça explique ce qu'il est devenu. Quoi.
Voilà, il fait œuvre d'historien parce qu'il nous raconte qui était au quotidien Karl Marx, qui n'était pas forcément quelqu'un de très sympathique, hein, et de Engels. Et puis c'est le courage d'une femme. Hein, et ce gamin qui se retrouve là-dedans, ne sachant plus qui est qui. J'adore ce genre de roman bien écrit avec un contenu intelligent et historique
et qui coûte pas cher
et
c'est en poche.
Voilà, donc allez-y, donc, ça s'appelle Le cœur battant du monde de Sébastien Spitzer et c'est en livre de poche.
Alors qu'est-ce
je vous
qu'on
fais
lit
pleurer
encore oui
allez, allez sortez votre boîte de Kleenex allez. On l'avait lu il y a très longtemps, ils viennent de le faire reparaître avec
c'est
une nouvelle couverture, c'est Jojo Moyes avant
ah,
toi
oui.
aux éditions Hauteville Poche.
Ça c'était formidable. Ouais.
Alors c'est vrai que si vous êtes très intello, proustien et que vous ne supportez pas les choses...
Mais c'est bien écrit.
Mais nous on s'en fout, c'est bien écrit, c'est bien construit. C'est l'histoire d'une jeune femme, elle a une vingtaine d'années, elle est au chômage. Et donc il faut absolument qu'elle mange. Et puis d'un autre côté, vous avez un jeune homme avec une famille très bourgeoise, avec de l'argent et tout. Alors lui, il a une vie d'aventurier, jusqu'au jour où il a un accident, il devient hémiplégique, il ne supporte plus cette vie et il veut se suicider. Et on engage cette jeune femme en disant, vous avez 6 mois pour le sauver du suicide. Et c'est comment cette jeune femme et puis ce jeune homme vont...
Je ne sais pas comment ça va finir. Hein, il est tétraplégique, hémiplégique.
Ouais.
Bon,
j'ai dit hémiplégique, ah oui.
Donc paralysé,
oui,
complètement paralysé.
Et donc, c'est comment cette jeune femme va essayer. Oui, alors, elle se met en colère. Hein, des fois, elle le remue. Lui, il lui raconte sa vie, elle aussi. Et vous allez voir comment ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Est-ce que ça va bien finir? Est-ce que ça va mal finir? En tout cas, ça va, je vous dis tout de suite, c'est pas glauque. Vous n'allez pas ressortir de là-dedans complètement.
Non, mais c'est vrai que...
je trouve qu'elle
a un peu le ventre serré.
Elle a l'art de détendre, mais on sent que ces personnages ne sont pas bâclés. C'est-à-dire qu'on le sent bien, ce gamin, enfin cet homme, on sent toute sa détresse, son désespoir, puis en même temps cet amour de la vie. Puis elle a envie de sauver ce type, hein, parce qu'elle l'aime bien, il est assez beau et tout. Voilà, moi j'ai passé un bon moment, ça s'appelle Avant toi de Jojo Moyes, et c'est chez Hauteville Poche.
Hauteville Poche,
ouais.
D'accord. Donc c'est poche, c'est pas cher.
C'est pas
quoi
cher.
Là-bas
ah, on peut se refaire peur on peut se faire peur aussi. Robin Cook, c'est le spécialiste des polars et des romans médicaux. Il a écrit Pandémie, ses livres de poche.
Alors,
on est à New York. Il y a une jeune femme qui est malade, qui meurt. Et puis, on va se rendre compte qu'il y en a, ça va s'accumuler, s'accumuler. Et puis, il y a un inspecteur qui va... Il faut trouver, hein, qu'est-ce qui se passe. Alors, vous allez voir, c'est tout un suspense génial, mais alors sur aussi comment on manipule, vous savez, génétiquement et tout, comment ces manipulateurs peuvent pas être forcément sympathiques. C'est... alors, même moi qui, en pandémie, je me dis, j'ai pas envie de vivre ça, bah, je me suis fait complètement avoir.
Ouais.
Et une fois que vous êtes embringué là-dedans, bah, vous le lâchez plus. Et vous allez voir, la fin est pas mal fichu du tout.
Ouais, je peux faire une petite piqûre sur le livre de Joëlle Goron que j'ai fini oui. par finir, qui s'appelle « Trop jeune pour être vieille ». Elle est venue cette semaine en parler sur Sud Radio. Franchement, là, c'est un remède, rien que la couverture jaune pétante, c'est un remède à la morosité. Vous allez rire, vous allez apprendre des choses. Ça s'adresse plutôt aux femmes de plus de 50 ans. Mais il y a des petits tests dedans. Est-ce que votre mari... Ouais. Faites évaluer votre mari. Est-ce qu'il est, vous diriez qu'il est mou, moche Il y a plein de trucs très drôles. Elle fait tous les avantages à être vieille, puis tous les inconvénients, mais il y a quand même des avantages. Et elle emploie le mot de vieille, les nouvelles vieilles. Et c'est très drôle. Elle parle des rapports avec les enfants, les petits-enfants, la sexualité, les fuites urinaires, la ménopause. Donc il y a plein de choses, toujours abordées avec humour et sérieux. Elle parle des choses, comme vous dites souvent, elle parle de choses graves avec légèreté.
Et puis elle fait partie de cette génération qui n'a pas peur d'assumer sa vieillesse.
Non,
parce qu'il y a des nouvelles générations
ans,
qui se disent...
Elle a 77 ans. Ouais.
Et on a l'impression... Maintenant que la vieillesse, ça n'existe plus, qu'on va rester jeune tout le temps et que c'est pour les autres. Alors que j'aime beaucoup cette génération qui assume...
Et le livre est chez De Noël. Alors, un petit encore un.
Eh bien, moi, j'avais adoré. Il était de Jacques Ravenne. Ça s'appelle Les derniers jours de Robespierre, la chute chez Pocket. Alors ça, les enfants, ça commence par... C'est terrible, hein, parce que cet homme qui était un dictateur, hein, qui, pour faire le bonheur des autres, va en tuer des milliers, qui était toujours bien habillé, poudré, enfin, voilà. Et là, on le retrouve. Il est dans une charrette, mort ou débraillé. Il est au cimetière. On va le mettre dans une fosse. On lui pique ses fringues et tout. Et c'est les derniers jours de cet homme. C'est qui ne comprend pas ce qui se passe, qui est absolument de l'impression de ces gens sont ingrats. Et tout. C'est vraiment l'histoire au jour le jour, d'un côté humain, c'est-à-dire que vous vivez au quotidien ces gens qui ont peur de mourir parce qu'ils ont peur de mourir par lui. Et lui, il est, à la fin, il se rend compte qu'il est foutu. Quoi. C'est absolument d'une intensité humaine.
On le lâche pas, ouais.
Vous découvrez. J'ai presque de la pitié pour cet homme, alors que franchement, je n'avais pas une attirance particulière. Ouais. Et c'est vraiment d'une puissance, d'une force. Pour moi, c'est un des meilleurs romans historique de l'année dernière qui vient de reparaître en pocket.
Allez-y, hein, les livres de poche.
Ah oui, ne le loupez. Là, on vous a fait quand même un best-of
un best-of
en livre de poche.
De pas mal de choses dans des genres très différents. J'en profite aussi pour reparler d'un coup de gueule qu'a eu un de mes invités cette semaine sur la fermeture d'un certain nombre de librairies. On parle beaucoup des restaurants, etc. Ouais. Mais Gibert Jeune qui va fermer. Ouais. C'est vrai que c'est une tragédie. Donc, il faut aider vos libraires.
Les gens ne s'en rendent pas compte. Il faut absolument y aller, quoi, parce que y a les petites librairies, ils sont vraiment au niveau trésorerie, au bout du bout du bout, et que là, ça devient dramatique. Quoi.
Donc,
c'est ce qu'on dit, les conséquences vont commencer à apparaître maintenant, après le déconfinement, ça va aller sur plusieurs années, où les gens ne pourront pas s'attirer. Donc leur avenir est entre vos mains.
Donc allez acheter ces livres chez votre libraire, prenez des poches si vous n'avez pas les moyens, ça vaut 5-6 euros, vous allez retrouver toutes les références sur le site de La Griffe Noire, sur le blog de Sud Radio également, réécouter l'émission en replay, mais c'est important que ça...
Leur avenir est entre vos mains, c'est le moment de le dire.
Et ben voilà, on a fait un bon tour de table avec plein de bonnes choses à lire. Et puis le Jojo Moyes, allez-y.
Oui.
L'autre, le premier, rappelez-le, le
Colin Tibert.
Oui, mon frère,
ce zéro. C'est chez le liseur de
maison. Et puis Modern Love, vous allez adorer toutes ces histoires d'amour qui sont racontées par des jeunes, des moins jeunes. C'est formidable, moi j'ai adoré. Merci Gérard, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne lecture.
À bientôt.
Et on se retrouve, nous, dans un tout petit instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.